Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Jeannot Margier, professeur de yoga, dont un des objectifs est de changer le regard sur la vieillesse et le handicap, en particulier à travers un certain type de yoga spécialisé pour les personnes à mobilité réduite. Jeannot, bien sûr, ne fait pas que du yoga pour les personnes à mobilité réduite. Bonjour Jeannot.
Bonjour Louis.
Alors moi je te connais depuis un bout de temps parce qu'il fut une époque j'étais même ton voisin à Marignac et tu étais déjà professeur de yoga, donc ce n'est pas une vocation récente.
Non, c'est une découverte déjà un petit peu ancienne, hein, donc qui remonte à une trentaine d'années, quoi, on va dire. Voilà. Hein.
Et alors qu'est-ce qui t'a poussé tout d'un coup à faire du yoga ?
Ben, c'est une situation peut-être que j'avais entrevue comme délicate, hein, c'est-à-dire que j'étais moi-même dans une certaine forme de pathologie. Et puis, j'ai découvert un petit peu le yoga, j'ai essayé de le pratiquer moi-même pendant un certain temps, aussi bien le travail postural que le travail méditatif. Et puis ensuite, j'ai fait une formation avec André Van Lisbeth, hein, qui est donc un des pionniers du yoga en Occident et qui a quitté son corps il y a déjà quelques années. Et voilà.
Alors quand on parle de yoga, c'est pas assez précis parce que des yogas, il y en a des tonnes. Toi, tu parles de quel type de yoga d'abord ?
D'abord, si on parle de yoga, on revient normalement dans l'unité. Donc il peut y avoir différentes formes de yoga dont la pédagogie peut apparaître comme différente, mais en principe, le yoga est un. Le yoga est un. Il n'y a pas... ce qui se passe, c'est que simplement, il y a des appréciations différentes, des pédagogies différentes qui font qu'il y a une évolution. Mais cette évolution doit rester quand même dans une certaine forme de tradition. Si on reprend le mot yoga, yoga ça veut dire joindre. Mais qu'est-ce qu'on joint ? En principe, le corps et l'esprit. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais créé aussi une association qui s'appelait donc Souka, Harmonie du corps et de l'esprit, en vue justement de proposer une pratique liée au yoga et notamment au Hatha Yoga. Puisque le Hatha Yoga, donc c'est un petit peu le contenu de mes cours, mais dans le Hatha Yoga, on peut retrouver le yoga dans son acception pleine et entière. Hein.
Oui, mais moi, je suis pas tout à fait satisfait de ta réponse, puisque des yogas, il y en a quand même des tonnes. Le Boga Yoga, le Jhana Yoga, le Bhakti Yoga, le Hatha Yoga, et même dans le Hatha Yoga, il y a le Yoga Iyengar, il y a même du yoga, ils sont dans des tentes de sudation, ils suent beaucoup, là, je sais pas si t'as entendu parler.
Oui, tout à fait.
Donc
oui,
il y en a des tonnes. Alors,
c'est pas des tonnes, c'est des appréciations différentes. Et le problème à l'heure actuelle, c'est comme le yoga est tendance, même au niveau planétaire. Et donc, en devenant tendance, eh bien, il peut amener aussi, certaines dérives. Mais en fait, on peut avoir une image quand même d'une évolution possible dans le monde du yoga, puisque bon, bien sûr que c'est important de pouvoir préciser que dans les différentes formes de yoga, eh bien, on doit se retrouver de façon pleine et entière avec que ce soit dans le bhakti, parce que le yoga c'est une philosophie, c'est un art de vivre. Le hatha yoga donc est un processus pour aller vers cet art de vivre. C'est une philosophie, le yoga. Donc si on quitte, à un moment donné, les éléments de l'éthique du yoga, c'est plus du yoga. Voilà. Et tu comprends ?
Oui, mais moi j'ai fait énormément de yoga sans jamais faire de hatha yoga, par exemple.
Oui, mais le travail du hatha yoga, c'est un travail. Si on reprend les 8 pétales du yoga, il y a l'éthique, les observances par rapport à autrui, par rapport à soi-même. Ensuite, il y a le travail postural proprement dit. Il y a aussi le travail respiratoire, le pranayama, ce qu'on appelle le retrait d'essence, dont il faudrait un petit peu approfondir. Mais et puis, il y a aussi donc la méditation, et qui est donc le couronnement du Hatha Yoga. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tout le travail du Hatha Yoga, en principe, est destiné à revenir en soi-même et d'aller vers la méditation, vers l'assise silencieuse.
Alors, j'exagère, c'est pas vrai. J'ai pratique depuis très peu du Hatha Yoga dans le Diwa avec un agriculteur qui est pas loin de Boyères. Et là, c'est plutôt de la gymnastique, tu vois. On n'a pas tout ce qui concerne un petit peu la partie spirituelle, toi. C'est vraiment, on tire nos muscles.
J'en suis désolé. Mais en fait, c'est quand même, si on reprend les 8 pétales, et même si c'est la méthode Iyengar, les bouquins qu'il a écrits sont très très bien. Après, c'est le professeur lui-même qui intègre dans... Alors, ça dépend de la durée du cours, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'un cours devrait durer au moins 2 heures. Et que la plupart de mes cours sont plutôt vers 2 heures qu'une. Mais si on n'intègre pas le processus de la méditation dans le yoga, il manque un élément, à mon avis, qui est fondamental. Donc, bien sûr qu'on peut retrouver aussi l'aspect méditatif dans le travail postural proprement dit. Et ça aussi, c'est quelque chose à découvrir. Sur le plan de l'énergie, de la conscience, du souffle, on est dans le yoga avec tous ces éléments-là. Voilà. Donc, après, s'il y a une conception plus gymnique, moi, je dis souvent, écoutez, allez faire un cours de yoga avec un professeur, vous verrez si ça vous correspond. Si ça vous correspond, très bien. Si ça vous correspond moins, ben, allez voir ailleurs. Il y a peut-être une dimension que vous recherchez qui n'est pas présente ici, etc. Mais le domaine spirituel, il est au cœur de chacun d'entre nous. Si on voit le spirituel, et spirituel, ça veut dire spiritus, c'est la respiration, hein, le souffle de vie. Hein, donc la spiritualité est au cœur d'entre nous. Alors des fois, bah, il faut aller la chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus dans la profondeur, la retrouver parce que notre mental est souvent donc, disons, bien rempli et nous permet difficilement d'aller se recentrer dans notre cœur. Au cœur de la poitrine, par exemple, c'est le souffle de vie, c'est la conscience, c'est l'énergie, tout est là. Donc le travail postural, c'est un élément qui prépare l'assise silencieuse.
Donc pour toi, c'est très important, cette dimension spirituelle dans tes cours de yoga.
Mais bien sûr. Parce que une posture de yoga, un petit mal de dos peut nous emmener très loin. On peut venir au yoga pour un mal de dos, un petit problème physiologique. Mais si on revient un petit peu en soi à l'égard de ce problème de dos, des tensions, de cette tension qui peut exister. On peut aller plus loin, redécouvrir sur le plan de l'énergie comment ça circule, notre souffle, l'envoyer dans les zones un petit peu, les zones qui sont pas forcément très lumineuses, qui nous posent des problèmes, où les tensions se sont accumulées, où on a chacun nos histoires de vie. Voilà, donc c'est très simple en fait le yoga. Mais la simplicité n'est pas forcément très facile.
En parlant de cette dimension spirituelle des cours, ça peut quand même... Bon, tu disais qu'il y avait des gens, s'ils ne la trouvaient pas, ils pourraient partir ailleurs. Mais ça peut être l'inverse. Des gens, ça peut les perturber qu'un certain type de spiritualité de type oriental, étrangeoïde, soit présente dans des cours.
C'est pas étrange, parce que la spiritualité, si on parle du domaine du souffle, le souffle... C'est relié à la conscience. Souffle et conscience sont intimement liés. Donc, on n'est pas dans quelque chose de fondamentalement oriental, même si le yoga est universel pour moi. Et bon, alors il y en a qui l'appellent occidental pour bien redonner un cadre, etc. Bon, il y a eu effectivement le départ de la pratique. Bon, effectivement, vient d'Inde, du Cachemire, etc. Mais en fait, ce qui est fondamental, c'est de vivre tout simplement le yoga à partir du corps que l'on est et pas forcément du corps que l'on a.
C'est un distinguo que j'aimerais bien que tu nous expliques. On est le corps, on n'a pas un corps.
Si, on a un corps, mais c'est important de considérer qu'on part du corps tel qu'il est au moment de la pratique. Il y a des choses qu'on peut pas faire quand on est dans une mobilité réduite, par exemple, où il y a des tensions, le bassin est bloqué, donc on va pas pouvoir aller vers certaines postures, sinon on va introduire du volontarisme excessif, et ce volontarisme, il va rigidifier le système musculaire plutôt que d'enlever la tension. Donc, c'est une attention permanente dans la pratique qui va nous emmener vers un état de yoga. L'état de yoga étant, voilà, toujours c'est ce qu'on recherche, un petit peu de revenir dans l'unité, de revenir au plus profond de nous-mêmes. On va pas partir dans des sémantiques orientales, etc. On peut dire il y a une origine, voilà. Mais le yoga, pour moi, il est universel. Complètement.
Alors, tu animes des sessions pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes d'un certain âge. Mais bien sûr, tu ne fais pas que cela. Tu as aussi des cours de yoga classique pour tout un chacun. Et d'ailleurs, ma question serait celle-ci. Qui fréquente les cours de yoga en général? Ça s'adresse à tout le monde, même à des jeunes enfants, ou ça existe ça?
Ben, c'est pour les enfants, donc moi je le pratique pas, mais il y a par exemple maintenant le yoga qui vient d'être introduit dans l'éducation nationale grâce au travail persévérant de Micheline Falk, qui a créé le yoga pour l'éducation, et depuis des années elle essaye de l'intégrer à l'école sous forme de relaxation, sous forme un petit peu plus ludique pour les enfants. Bon, moi je le pratique pas ici à dit, mais effectivement ça peut se faire. Alors yoga pour certaines catégorie de personnes, pourquoi pas, mais bon, les enfants c'est un petit peu à part, mais les différentes catégories de personnes, si on peut parler de catégories, moi je suis pour
la mixité.
Ben oui, je suis pour mélanger les personnes. Dès l'instant que la pratique est fondée sur la direction d'aller vers une situation posturale pour nous étirer, faire du bien à notre corps et faire que le corps il soit pas soumis aux tensions mentales, et si on fait, si on travaille dans ce sens, pas de problème. L'intention, moi je dis souvent, c'est d'aller vers. Et il n'y a pas un yoga pour tous, il y a un yoga pour chacun. C'est vraiment un petit peu la base pour moi, c'est que c'est chacun dans sa pratique. Alors bien sûr, un yoga pour chacun. Mais aussi le yoga, c'est aussi tourner résolument vers l'autre. Ce qu'on oublie souvent. Parce que un des premiers éléments de l'éthique du yoga, c'est la bienveillance, c'est la non-violence. C'est ne pas se nuire à soi-même, ne pas nuire aux autres. Donc par conséquent, il faut déjà ne pas nuire à soi-même pour ne pas nuire aux autres. Mais si on reste dans la bienveillance par rapport à son corps, par rapport à notre action, par rapport au fait d'être centré, on est dans une démarche spirituelle. C'est tout. Je veux dire, faut pas chercher midi à 14h, c'est simplement le ressenti. Ressentir ce qui se passe dans mon corps, enlever les tensions quand on observe des tensions, mais toujours cette intention d'aller vers la posture.
Alors, est-ce que ça fonctionne réellement, alors, quelqu'un qui arriverait perclus de différentes douleurs articulaires, musculaires, voire avec un mental échevelé, pourrait, en quelques années de persévérante activité de type yogique, aller vers un mieux-être?
Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que après, ça appartient à chacun, bien sûr. Mais s'il y a un souhait, s'il y a une volonté, donc, de sortir de certaines difficultés psychologiques, physiologiques. Et si il y a vraiment une détermination pour aller vers peut-être un état de guérison, hein, d'une certaine manière, ben il n'y a pas de problème. Mais l'intention d'aller vers, c'est que bien sûr, on va pas aller vers des postures accomplies tout de suite, puisque le corps est pas forcément prêt à le faire. Donc ça sert à rien. Donc c'est quelle est la démarche au niveau pédagogique pour aller vers cette posture qui va faire du bien au corps, qui va étirer, parce que voilà, prendre soin du corps, c'est quand même prendre soin du mental aussi.
Donc tu es très patient et tu n'exiges pas plus d'efforts que cela des gens que tu as en face de toi. Mais comment les repères-tu qu'ils peuvent plus ou moins faire des efforts? Ou c'est à eux de le gérer?
Ben c'est à chacun de le gérer, bien sûr. Parce que dès l'instant qu'on n'utilise pas le volontarisme, c'est de comprendre ce dont le corps a besoin. Or, le corps, des fois, il est perclus de rhumatisme, il est perclus de certaines difficultés. C'est comment essayer de faire en sorte de placer la bienveillance au cœur de la pratique. C'est cette bienveillance qui va nous emmener un petit peu dans cette direction. Là, évidemment, ça peut demander plusieurs mois, plusieurs années, j'allais dire même dans une autre vie. Mais l'intention, c'est toujours cette idée d'aller vers. Je parle souvent de l'effort sans effort. Alors, bien sûr que l'effort, c'est quand on ressent la difficulté musculaire, elle est ressentie, mon corps, ça lui suffit, je suis là, mais j'y reste. Et c'est la stabilité dans la posture qui va nous permettre d'aller plus loin après. Ça sert à rien de mettre du volontarisme. Là où j'en suis, je suis vraiment dans l'immobilité, dans le travail postural à un moment donné, j'ai mon bassin bloqué, mais je peux pas aller vers cette posture parce que j'ai mon bassin bloqué. Donc c'est partant de là, comment je vais pouvoir délier mes articulations, et c'est aussi tout le travail du délié articulaire qui est extrêmement important. C'est essentiel ce délié articulaire, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu dans cette direction avant d'aller vers des postures plus accomplies. Bien sûr, alors il y a des gens qui sont différents, qui sont plus laxes que d'autres, etc. Peu importe, mais c'est à chacun de trouver un petit peu sa direction, et de ce que j'appelle l'effort sans effort, c'est de sentir quand je dois m'arrêter et d'y rester, d'observer, de placer mon souffle à ce moment-là dans la posture que j'ai, et puis c'est tout. Voilà. L'essentiel, c'est de pouvoir revenir dans la répétition, dans le dynamique, c'est ce que j'appelle le dynamique, pour pouvoir tout doucement faire en sorte de reconnaître le statique de là où j'en suis, etc., pour progresser tout doucement. Mais il n'y a pas une intention délibérée de faire. On n'est pas dans le faire.
Est-ce qu'il y a une connexion que tu as pu constater, effectivement, entre le physiologique et le pathologique? Est-ce que le mental influe sur le corps et vice-versa?
Ben bien sûr, c'est complètement lié. Quelqu'un qui a des tensions dans le corps physique, il a forcément une préoccupation mentale parce qu'il y a des tensions qui provoquent des douleurs, etc. Donc c'est comment délier. C'est pour ça que le fait de délier va nous emmener un petit peu plus loin vers un travail conscient d'attention et de vigilance. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine. Donc un des rôles du yoga, c'est aussi d'accumuler de l'énergie dans le corps et non pas de la dispenser. Bon, on peut dépenser de l'énergie. Il y a des exercices où on va dépenser de l'énergie, mais le but final, c'est effectivement d'emmagasiner l'énergie pour qu'on puisse être dans la vie de tous les jours. Et puis, voilà. Mais le yoga, c'est surtout essentiellement un art de vivre. Voilà. Donc après, ça passe par le travail postural, le travail respiratoire, le travail méditatif. Mais la méditation, on peut même le trouver dans la posture si on est bien, si on a les chaînes musculaires suffisamment étirées. Pas de problème.
Alors, Jeannot, dans le Diwa, des cours de yoga, c'est pas ça qui manque, mais qu'est-ce qui t'a poussé plus particulièrement vers les personnes en difficulté ou à mobilité réduite?
Le phénomène déjà du yoga dans le Diwa, il y a pas si longtemps, on n'était que deux enseignants. Maintenant, ça prend une proportion qui suit un petit peu la courbe planétaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, si le yoga est tendance, c'est qu'il y a peut-être aussi un mal-être qui fait que, voilà. Mais sur les cours que j'ai organisés pour personnes à mobilité réduite, eh bien c'est simple. Il y avait des gens qui avaient plus de 80 ans et qui se posaient le problème de la continuité du cours de yoga. Donc j'ai commencé à adapter spécialement un cours où les gens peuvent quand même se mettre sur un tapis et où on travaille ensemble. On fait un cours qui est donc, qu'on peut appeler un cours soft, enfin un cours qui permet quand même de délier un petit peu les articulations, de tenir compte de la réalité de chacun, voilà, donc qu'on soit vieillissant, parce que le vieillissement c'est pas une maladie, il faut quand même le repréciser, et c'est pas parce qu'on a une mobilité réduite qu'on peut pas pratiquer le yoga non plus, voilà, donc... Ici, donc j'ai fait un cours plus doux, et puis après j'ai proposé aux maisons de retraite un travail plus spécifique, parce que je me disais qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter ou de ne pas pratiquer le yoga pour un problème de pathologie physiologique, qu'on soit parkinsonien, qu'on ait Alzheimer, qu'on ait voilà, une difficulté cardiaque, opérée du cœur, une déficience visuelle importante, une paraplégie, une tétraplégie, voilà. Donc, voilà, ce qui était important, c'est que le yoga est ouvert à tous. Il n'y a pas d'exclusive. Quand on parle de niveau, bon, des niveaux, ça me laisse un petit peu pantois. Simplement qu'il y a des personnes qui vont aller plus loin dans la posture, d'autres moins loin, d'autres, voilà. Et donc, après, c'est quand j'ai travaillé quand même avec des personnes en situation de handicap au niveau mental, puisque c'était un petit peu mon travail. Quand j'étais à Recoubo, j'avais créé une association sportive. Et déjà, dans cette association sportive, je m'étais aperçu que le fait de bouger son corps modifiait déjà, de façon des fois importante, le comportement. Voilà. Donc, c'est cette association corps-esprit qui reste quand même très importante. Et puis, il faut s'inscrire dans la vie. Donc, moi, j'ai mis en place, on va dire, un yoga sur chaise pour personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Et je l'ai proposé à l'hôpital de Die et aussi à Marignac. Voilà, donc, et puis ça fonctionne, c'est la cinquième année.
Et tu vois que c'est efficient ?
Bien sûr, il y a des progrès des fois super. Bon, pas tout le temps, mais peu importe. L'idée, c'est de lutter contre une dégradation. Quand on est assis tout le temps, il y a forcément un tassement. C'est comment essayer de détasser le dos quand on est dans une situation assise. Prendre soin des lombaires, de la colonne vertébrale, des cervicales, etc., des chaînes musculaires. De garder, en fait, l'autonomie des gestes du quotidien. C'est ça le plus important. Donc, les gestes du quotidien, c'est pouvoir prendre, si on travaille sur la chaîne musculaire du bout des doigts jusqu'au cervical, sur cette chaîne-là, eh bien, c'est extrêmement important. Moi, j'ai revu une personne qui, au bout de 6 mois, à 92 ans, a retrouvé l'usage de l'écriture parce qu'elle avait eu la conscience, l'intelligence de répéter certains mouvements. Donc, des progrès, aussi infimes soient-ils, sont possibles. Et après, quand on fonctionne ensemble, on partage une séance ensemble, on est dans le partage. Et c'est pas autre chose. Et le partage, c'est quoi? C'est la reconnaissance de la personne. Et c'est ça qui est fondamental. La reconnaissance de la personne, la reconnaissance de l'autre. C'est valable pour tout un chacun déjà, en temps normal. Mais particulièrement dans certaines institutions où il y a vraiment besoin de cette reconnaissance, de ce partage. Voilà, et donc c'est pour ça que moi j'ai, disons, structuré une séance sur chaise, tenant compte de tous les aspects du corps. Même quand on peut pas bouger une jambe, on peut ressentir la profondeur de ce qui se passe dans la jambe. Il y a plein de choses possibles. On n'a pas tout découvert sur le corps, faut pas croire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens, finalement, y reviennent souvent. Et puis, c'est relié aussi, bien sûr, après... quand on a 90 ans et plus, hein, au travail de conscience. Travailler sur la respiration, c'est travailler sur la conscience. Le souffle et la conscience sont intimement liés. Car, nous dit un vieux texte, tous deux résident ensemble dans ce corps et le quittent ensemble. Voilà. Mais bon, c'est passionnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que je me suis déplacé pour plusieurs associations de personnes en difficulté, que ce soit à Lyon, en Bretagne, à Paris, même pour une fédération. Eh bien, c'est de voir qu'il y a des jeunes enseignants qui sont vraiment branchés sur cette pratique. Parce qu'effectivement, c'est une population qui grandit. D'un côté, bon, la vie augmente, mais de l'autre côté, quels sont les moyens qui sont utilisés pour faire en sorte que on puisse rester bien en conscience, en attention toute la vie, quoi.
Tu veux dire par là que tu as commencé à essaimer ce yoga pour personnes à mobilité réduite ? Enfin, disons qu'il y a d'autres professeurs qui sont appropriés un petit peu ce genre d'atelier.
Ben, c'est-à-dire que bon, quand j'ai présenté cette pratique, il y a des jeunes professeurs qui ont été vraiment très branchés sur la transmission possible de cette pratique, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est extrêmement important. Alors, ce réseau, enfin, de professeurs ou d'adeptes qui sont vraiment déterminés, motivés, eh bien, ils retransmettent cette pratique. Et je dois dire que c'est un petit peu dans l'air du temps aussi, parce que, et je remercie le Conseil Général d'avoir validé une formation de yoga sur chaise sur 2 journées pour les aidants familiaux, pour le personnel soignant. Ça, c'est vraiment très, très bien. C'est la reconnaissance que ce travail-là peut être intéressant. Et je pense que aller dans les institutions, c'est tout à fait bien. Faut être patient quand même, hein, parce que c'est des fois difficile, hein, donc il y a un manque de personnel. Mais l'essentiel, c'est d'être motivé sur le sens de cette pratique, pourquoi on le fait, pour pouvoir la transmettre. Et ça, je trouve que voilà, enfin, je suis passionné par cette pratique parce que je vois qu'il y a des effets quand même. Les effets, ça peut être aussi de lutter contre des tendances à la fermeture. Aussi, bien sûr, cette tendance, depuis qu'on est sur deux pattes, on n'est pas sur 4 pattes, hein, ça fait longtemps déjà qu'on est sur 2 pattes. Forcément, ça entraîne des conséquences de fermeture sur le corps, etc. Mais lutter contre cette tendance, même quand on est assis, c'est pouvoir ouvrir, s'ouvrir, à rester dans l'ouverture, l'ouverture thoracique, pour que la respiration puisse trouver son aise, pour que l'oxygène remonte dans tous les poumons, dans les poumons, dans les alvéoles du haut, etc. Comment bouger. Voilà. Mais je pense que le travail sur le corps est extrêmement important, même pour aller vers la méditation. Bien sûr.
Vaste programme, Jeannot, et je crois savoir que tu organises donc un certain nombre d'ateliers chroniques et d'ateliers exceptionnels. Alors je t'invite, pour les gens qui t'auraient entendu maintenant, de nous livrer quelques coordonnées pour que ces gens-là puissent te joindre et voir s'inscrire à tes cours.
Ben alors, donc, il est toujours possible de venir essayer un cours au gymnase de Die, hein, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter sur internet à jeannot.margier@nornet.fr ou bien aller sur un petit site que j'ai commencé à mettre en place, www.jeannot-yoga.fr.
Alors donc, tu viens de dire qu'il est possible d'avoir une première session d'initiation gratuite au gymnase de Diem. Alors, quel horaire ?
Ben, bien sûr que c'est possible. Même deux. Après, on voit si ça correspond. Voilà, c'est pas... c'est simple, hein. Soit vous finissez un cours et vous êtes pas trop mal quand même, parce que si vous êtes mal après le cours, ben, c'est quand même un peu problématique. Donc, vous voyez si le courant passe avec l'enseignant. Et puis après, ben, si vous le souhaitez, vous inscrivez. Il faut vraiment rester dans l'appréciation, dans ce que l'on ressent au travers du cours. Voilà, c'est essentiel. Donc, moi, je fais des cours encore cette année le mardi matin à 8h30 au gymnase, salle de danse. Le jeudi, c'est un petit cours, le premier cours de personnes à mobilité un petit peu soit réduite, soit ayant des pathologies, même occasionnelles. Bon, on peut avoir un mouvement, une épaule un peu en difficulté, voilà. Eh bien, c'est à 16h30 jusqu'à 18h, donc c'est ce que j'appelle un yoga plus doux. Ensuite, vous avez un yoga type classique de 18h30 à 20h. Et ensuite, à 20h30, un approfondissement sur le plan postural, voilà. Et puis le vendredi, donc moi, comme je fais partie d'une association, Marie-Vonne a pris le cours du vendredi de 10h30 à 12h30. Donc tout ça fonctionne au sein même de l'association, voilà.
L'association qui s'appelle, rappelle-nous ?
Souka, harmonie du corps et de l'esprit. Souka, ça veut dire joie détente, hein ? Voilà. On est dans la pratique du yoga, si on n'est pas dans le plaisir, ça peut pas faire.
Il ne faut pas vouloir se sortir d'arrache-pied de la souffrance. Il faut peut-être même commencer par l'aimer. Non ?
Mais de toute façon, quand on a souffert, ben, on peut aller dans la direction opposée. On sait pourquoi. Hein ? Donc d'aller vers cette recherche de quiétude, de tranquillité, d'harmonie en quelque sorte. Hein. Voilà.
Et que fais-tu des gens qui aiment souffrir alors ?
Oh non, ça c'est une question piège. Alors s'ils aiment souffrir...
Tant pis pour eux ?
Ben non, c'est pas ça, mais ça m'étonnerait qu'ils viennent. Mais ceci dit, c'est vrai que la souffrance a des aspects contradictoires et que c'est difficile de sortir de la souffrance parfois. Et donc, il y a des pathologies aussi, des histoires de vie, j'allais dire, qui font que, eh bien, des fois, on est tombé dans un petit trou noir et des fois, il est devenu grand et puis on s'en est sorti. Et puis, quand ça devient récurrent, c'est difficile. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps et puis en fait essayer de rester dans cette bienveillance absolument nécessaire. Et puis si on peut avoir cette compassion à l'égard de l'autre, ben, c'est quand même fondamental, quoi. Mais pas prendre la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que la souffrance, elle est là, elle existe partout, on la voit partout dans le monde, hein, donc elle est bien présente.
C'est même la première noble vérité du bouddhisme, hein. La souffrance est partout.
Ben, c'est cette noble vérité qui est réintroduite dans le yoga. Hein. Vous savez, dans les quatre nobles vérités du bouddhisme, on retrouve aussi tout ce qu'il y a en yoga. Sauf que la dernière noble vérité, c'est il y aura une pratique du hatha yoga avant la méditation, c'est tout. Et que le travail du corps est complètement intégré, puisque le hatha yoga et la voie du Bouddha, si on se lance dans cette discussion, c'est un aspect aussi très intéressant. Voilà.
Non, j'ai certes pas envie de polémiquer avec toi, Jeannot, car j'apprécie fortement ton travail. Enfin, je veux dire, c'est bien qu'il y ait des gens qui aident ceux qui ont besoin de faire des étirements nimbés d'une spiritualité unificatrice. C'est bien qu'il y ait des gens comme toi et je te remercie d'être venu avoir accepté le jeu de répondre à mes questions. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt, Jeannot. Au revoir.
Merci à toi. Au revoir.
Interview. Hey, the superbe.
L'interview du jour.